élection législative 2017, second tour, un événement à vivre sur Radio Bulle, Espoir FM, Radio 4 et CFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, le débat d'entre-deux-tours débute avec bien nos invités, Michel Lozana ainsi que Jean-Dionis du Séjour qui sont avec nous. Et bien sûr, nos invités également qui vont mener ce débat, c'est la presse écrite avec bien Bastien Souperbier qui est Journal Sud-Ouest, qui représente le Journal Sud-Ouest. Et puis Stéphane Bersauter qui également lui représente bien le groupe La Dépêche du Midi. Tout d'abord, bonjour Monsieur Lozana.
Bonjour à vous.
Monsieur Dionis, bonjour.
Bonjour.
Et puis également, donc, bonjour à Stéphane. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et puis Bastien, donc, pour Sud-Ouest.
Bonjour.
On va aller très vite de mon côté pour expliquer qu'on a une heure. Donc, on va vous donner 12 minutes par thème. Ça fait 6 minutes chacun. Avec, donc, 4 sujets qui vont vous être, distribués comme ça par nos journalistes. Donc, on va attaquer pratiquement de suite pour pas perdre de temps. Parce que c'est vrai que dans une heure, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu court. Donc, pour commencer, vous me faites confiance. Je fais un petit tirage au sort pour savoir qui commencera pour la réponse. Voilà,
oui. Hop,
ce sera Monsieur Lozana, donc. Ouais, et premier sujet que je lance, donc, on va parler fiscalité de suite. Et c'est Bastien Souperbier, Journal Sud-Ouest, qui va lancer la première question.
Voilà, Monsieur Lozana, bonjour.
Bonjour.
Donc, effectivement, on aurait pu parler culture, de la lumière dans les tableaux de Vermeer, la comique de Sacha Guitry, mais non, les bas du front. Donc, on va parler gros sous, portefeuille, et donc fiscalité. Dans le programme d'Emmanuel Macron, sont mis en exergue un certain nombre de mesures, notamment la hausse de la CSG.
Ouais.
Qui serait compensé par une baisse des charges sociales au niveau des salaires. Cela dit, la hausse de la SCG touche tout le monde, ce qui n'est pas le cas pour la baisse des charges sociales au niveau des salaires. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
Vous pensez bien que je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, en France, cela pèse trop sur les salaires. Et donc il faut maintenant répartir les charges sociales, y compris sur une plus large assise. C'est ce qui a beaucoup pénalisé dans les années passées les salariés et les entreprises. Trop de charges concentrées sur les salaires. Donc il fallait faire quelque chose. La hausse de la CSG, en effet, va être de 1,4%. Voilà.
C'est tout, alors,
tout de suite. Tout de suite, parce que je sais que c'est le procès que l'on fait à Emmanuel Macron. Nous savons que les petites retraites ne seront pas touchées, ça a été exclu. Et ces petites retraites, par ailleurs...
C'est quoi une petite retraite ?
Alors on a fixé, ça a été fixé à 1200 euros, voilà. C'est-à-dire que 40% des retraités ne seront pas soumis à cette CSG. Et par ailleurs, ils seront compensés très largement, même pour ceux qui vont être pénalisés par cette mesure, ils seront très largement compensés par le fait de ne plus payer la taxe d'habitation. Voilà. C'est-à-dire que il faut voir dans sa globalité le programme d'Emmanuel Macron qui va amener vraiment du pouvoir d'achat. Il y a par ailleurs d'ailleurs une augmentation qui est prévue de l'allocation vieillesse, vous le savez. Voilà. Donc cette mesure que l'on veut pointer du doigt, voilà, je pense que quand on voit dans son ensemble la fiscalité d'Emmanuel Macron, elle est à la fois juste et elle est dynamique.
On reviendra sur l'histoire de la taxe d'habitation, mais peut-être... Monsieur Dionis, vous, à mon avis, c'est pas forcément une bonne idée.
Non, c'est pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée. Et il faut être plus précis que ça. Hein. On a pris une retraite déjà significative, 1500 euros par mois. Il y a déjà beaucoup de gens qui ne sont pas à ce niveau-là. Ces gens-là, lorsqu'ils ont une retraite à 1500 euros par mois, paieront 300 euros de plus de CSG. Donc il ne faut pas dire que c'est un prélèvement très important. Et nous pensons que ça, pour le coup, c'est mal construit et que c'est exorbitant. On aurait préféré un mix qui aurait été différent, avec une baisse plus forte des dépenses publiques. C'est maintenant. On est très très haut en prélèvement obligatoire. La France, on est champion d'Europe en prélèvement obligatoire. Donc, il y a un moment où il faut dire basta les hausses d'impôts.
Et d'ailleurs, cela dit, François Fillon, vous prenez une hausse de la TVA de 2 points,
oui,
qui a été opportunément abandonnée en tout temps.
Oui, mais sur le fond, déjà, l'idée d'aller chercher la TVA comme assiette plutôt que la CSG, c'était une meilleure idée. Parce que c'est toujours l'idée de la TVA sociale, on fait payer notamment les importations, là on ne fait payer que les revenus. Et donc le fait de concentrer sur la CSG, ce n'est pas une bonne idée. Tout à l'heure je dirais que sur des initiatives du président Macron, je suis Macron compatible, là je ne le suis pas. Et vraiment l'orientation que prend donc le gouvernement Fillon, le gouvernement Macron, c'est très flou, très flou. C'est vraiment très flou cette affaire au niveau fiscal. Elle est quand même pas bonne et moi je suis pas prêt de la soutenir. Ni sur la TH, ni sur la CSG.
Ce qui est flou chez vous, malgré tout, c'est le point défendu par les Républicains, le programme sur la baisse de l'impôt sur revenu de l'ordre de 10%, pour lequel on ne sait pas comment serait financée cette baisse.
Non mais globalement. On est dans un État qui a 70 milliards d'euros de déficit. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est devant, et je le conçois de ce que vous dites du programme des Républicains, mais alors c'est encore plus vrai sur le programme d'Emmanuel Macron, devant un flou qui est considérable là-dessus. C'est-à-dire comment financièrement on va relever le défi des déficits des comptes publics. Là, pour le coup, il y a beaucoup de non-dits et ça sera une difficulté de la rentrée politique après la phase législative, très certainement.
Oui, messieurs, bonjour. La suppression, si j'ai bien compris, de la taxe d'habitation, vous y êtes favorable ou pas? Est-ce que c'est pour vous, Jean-Dionis, de la poudre aux yeux et du saupoudrage? Et monsieur Lozana, qu'est-ce que vous en pensez de cette suppression? Taxe d'habitation, c'est du populisme, monsieur?
Pour ma part, je suis vraiment très, très. C'est une idée qui est peut-être habile au niveau électoral. Je ne conteste pas l'habileté d'Emmanuel Macron. Il a fait largement la preuve de ses talents dans la matière. Sur le fond, je suis alors complètement opposé à ça. Concentrer la taxe d'habitation, et aujourd'hui, il y a déjà à peu près une personne sur deux qui ne la paie pas, mais concentrer la taxe d'habitation sur 20%, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut que l'impôt soit payé par tout le monde. D'ailleurs, je suis surpris, parce que dans l'ensemble, le mouvement social-démocrate, mais aussi les Républicains, ont été sur une ligne, à savoir qu'il faut une assiette la plus large possible et des taux les plus bas possibles. Là, on fait l'inverse. On va concentrer la taxe d'habitation, son paiement sur 20%. Qui ça va être? Les classes moyennes. Encore une fois, c'est les classes moyennes qui vont payer ça. Et il y a fort à penser. Ça coûte 10 milliards, cette affaire. Et 10 milliards à un État qui dit qu'il va compenser alors qu'il a déjà 70 milliards de déficit. Cette affaire ne marche pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, c'est que la compensation ne se passera pas dans le temps, de niveau dynamique. Les communes vont y perdre. Et ce qui va se passer aussi, c'est que les quelques qui vont continuer à payer vont payer beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle le surfinancement. Donc là, très clairement, il y a une idée qui n'est pas bonne, je le dis fortement.
Monsieur Ozana, à ce sujet-là, vous êtes maire comme monsieur Dionis, vous savez bien que les compensations de l'État pour les dotations aux communes, aux collectivités, sont rarement progressives. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger, justement, de faire peser sur une petite partie de la population une augmentation fiscale qui serait pénalisable?
Tout le monde était d'accord depuis des années et des années pour dire que la taxe d'habitation est un impôt plus qu'injuste. Alors, soit on ne fait rien et on continue dans l'injustice, soit on essaie de faire quelque chose. Macron a proposé un système qui est bon, parce que ça va redonner du pouvoir d'achat. Je vous l'ai dit, c'est un système qui, par rapport aux retraités, va redonner du pouvoir d'achat aux gens. Donc cette histoire de compensation, il a promis de le compenser, y compris avec l'augmentation du coût de la vie. Ça sera suivi comme ça. Et après, chaque commune prendra ses responsabilités, pourra encore décider d'une augmentation ou non de sa fiscalité, mais ça, c'est autre chose. Il y a une compensation jusqu'à 80% des personnes ne paieront pas cette taxe d'habitation. Le principe étant de supprimer un impôt injuste, tout le monde était d'accord là-dessus, alors si on veut le garder, on continue l'injustice, et de trouver un système qui redonne du pouvoir d'achat. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important. Juste un mot, Macron compatible, ça n'existe pas dans le langage. Voilà, il y a des gens qui sont investis par Macron, qui vont porter sa politique, qui vont défendre que les Français veulent voir au gouvernement et à l'Assemblée, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Non, mais
on
Macron,
peut faire autre chose. Non, on ne coupe pas la parole.
Je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur.
Non, je ne vous ai pas coupé la parole. Oui. C'est important mais parce
on
que...
On va répondre quand même, on est libre.
Oui,
hein,
très bien, mais je vous laisse la parole.
D'accord.
Je suis d'accord de vous laisser la parole. Sauf que...
Et merci d'être d'accord pour me laisser la parole.
Chacun va parler, monsieur Lozana, vous terminez, monsieur Lozana.
Merci, monsieur Versauter, de me dire que je peux continuer. Voilà, donc c'est important parce que après, moi je ne refuse pas par contre de travailler avec tout le monde. Et ça c'est une nouvelle procédure aussi qu'on veut mettre en place, un nouveau fonctionnement. Il y a des gens qui sont Macron, d'autres qui ne le sont pas. Après, moi je suis d'accord pour travailler avec tout le monde, au contraire. Bon. C'est d'ailleurs ce que j'ai prôné pendant cette campagne.
Jean-Dionis.
Non, un mot.
Vous êtes micro-compatible, pas
micro-compatible. Compatible, alors j'assume pleinement sur certains sujets. Et c'est pas Michel Lozana qui va m'empêcher de dire ça. Moi, j'ai su au centre depuis maintenant 25 ans. Michel Lozana arrive récemment. Il est récemment converti. Hein, pendant très longtemps, il a été un cadre actif du Parti Socialiste. Donc, c'est surtout pas lui qui va m'empêcher de dire quand est-ce que je serai Macron-compatible ou pas. Je le suis sur certains thèmes, notamment sur la construction européenne. Ça a été la base de mon engagement politique. Je le suis aussi sur le libéralisme économique. Pendant que le Parti Socialiste était encore pendant très longtemps sur une vulgate marxiste, pendant très longtemps, nous, on était déjà sur le libéralisme économique. Et donc voilà, hein, donc on sera libre de dire, on sera constructif quand on le voudra, et quand, notamment sur la fiscalité, nous pensons que ce qui s'ébauche est injuste et confus, etc., effectivement, on le dira. Et c'est ça la liberté, plutôt que d'être, encore une fois, un bon petit soldat de Macron et un député godillot de Macron, mais ça, on va revenir sur cet enjeu-là.
On va continuer sur la fiscalité.
Je
alors.
Peux répondre, parce que là, quand même, il y a des attaques
personnelles. Ah oui, mais là, à ce moment-là, on prendra le café ensemble vers
13h. Il y a des attaques personnelles. Alors, voilà, Macron compatible, c'est nouveau. Tous les Agenais ont reçu une lettre de M. Jean Dionis avant le premier tour des élections présidentielles. Voilà, donc je la tiens à votre disposition.
Ce qui jusque-là est normal.
Pour montrer que, justement, Macron, c'était ce qu'il y avait de pire. D'accord. Donc voilà, donc Macron compatible, je veux bien. Qui ait des idées qu'on partage, c'est autre chose. Je suis heureux que M. Dionis du Séjour pense qu'il y a des idées qu'on peut partager et qu'il est d'accord avec moi sur certains points, c'est très bien. Ensuite, je ne serai pas un député godillot. C'est malvenu d'employer des mots de ce type-là qu'on donnait, vous le savez, à une assemblée. Moi, je resterai libre, c'est sûr, et loyal. Je resterai libre, je l'ai toujours été, y compris dans mon ancien parti que j'ai quitté il y a longtemps. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je l'ai quitté. Voilà. Et moi, la vulgate marxiste, en tout cas, j'en étais loin et j'étais un social-démocrate. C'est le parti qui m'a quitté. Moi, je suis resté sur mes positions et je n'ai jamais changé.
Très bien.
Pas si longtemps que ça.
On va rester... stop.
Tu mou quand même.
On va rester sur le conseil des parents. On va rester sur la fiscalité.
Oui. Tout à l'heure. Avec un petit temps chrono, hein, par exemple, 1:20 pour M. Lozana, il vous reste, et pour M. Dionis, 1:03.
Voilà. J'ai du retard. Vous n'êtes pas élus tous les deux au conseil départemental, mais on va continuer sur la fiscalité. La Chambre régionale des comptes, pour essayer de boucher un peu du trou du conseil départemental de Lot-et-Garonne, qui connaît quelques difficultés financières, comme d'autres, a proposé une hausse de 20% de la taxe foncière, enfin de l'augmentation de la part départementale de la taxe foncière. Pour vous, c'est la bonne solution, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que vous préconisez? Vous aurez l'un ou l'autre un rôle à jouer dans, effectivement, entre le conseil départemental ici en Lot-et-Garonne et l'Assemblée nationale.
Et le fond du débat, est-ce que c'est de recentraliser ou pas le RSA, puisque c'est l'explosion du RSA qui est avancée par le conseil départemental aujourd'hui pour expliquer les difficultés budgétaires de la collectivité.
C'est pas une question piège. Hein.
Je m'excuse, j'ai 20 secondes de retard, je vais répondre. Ce que vient de faire Michel Lozana est un amalgame sur la lettre Fillon. Moi, je pourrais faire des amalgames sur le parcours politique de Michel Lozana. Il a soutenu Dominique Strauss-Kahn.
Oui.
Il a soutenu Jérôme Cahuzac. Je revois encore, mais si, il y avait des réunions publiques, il a soutenu ces gens-là. Et je ne dis pas donc aujourd'hui qu'il est Dominique Strauss-Kahn ou Jérôme Cahuzac. Ça a fait partie de son parcours politique. Moi, donc, effectivement, au premier tour de la présidentielle, j'ai appelé à voter Fillon. Et au deuxième tour, ça, il ne le dit pas. J'ai appelé et j'ai fait campagne pour Emmanuel Macron. Donc, il faut arrêter ce genre d'amalgame. Hein, parce que, en termes de cohérence, s'il y en a un qui, est, encore une fois, a tenu un cap au centre et a tenu un certain nombre de valeurs au centre qui, aujourd'hui, sont, je dirais, plus dans le sens du vent, plus à la mode, c'est moi et c'est pas Michel Lozana. Michel Lozana, il a fait un long parcours d'apparatchik socialiste. C'est ça la réalité. Et il faut qu'il l'assume. Alors il peut dire je change parce que le vent est comme ça, mais il faut qu'il l'assume. Une fois qu'on a dit ça, ce qui se passe au niveau du département, d'abord, moi, c'est quelque chose qui profondément me touche et m'attriste. Et donc, le département était un petit peu le chef de file des collectivités territoriales. C'est lui qui a été pendant longtemps le moteur de l'aménagement du territoire. Et donc, premièrement, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de dignité devant la crise financière très profonde que traverse le Conseil général. Et donc, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Un premier niveau de réponse qui est, oui, il y a besoin maintenant de réponses de fond au niveau de l'État sur les départements. On les garde, on ne les garde pas. Et si on les garde, qu'est-ce qu'on leur donne comme, ouais, comme modèle financier, comme recette? De toute évidence, on les a beaucoup trop chargés de dépenses qui sont des dépenses dynamiques, les dépenses sociales, RSA et d'autres, et insertion économique, et d'autres, et de l'autre côté, au niveau des recettes, leurs recettes ne sont pas aussi dynamiques. Donc, il y a un problème de fond, et le président Macron aura à se saisir de cette affaire. Il y a un problème aussi, très clairement, au niveau du Lot-et-Garonne. Nous sommes, depuis 2014, Manuel Valls va à l'Assemblée nationale et dit « Je vais vous prendre 11 milliards d'euros sur les dotations », immédiatement, on a appliqué des plans qui sont des plans de rigueur dans les collectivités dont j'avais la responsabilité, l'agglo d'Agen ou la mairie d'Agen. Immédiatement, ces mesures-là n'ont pas été prises et pas suffisamment au niveau du Conseil général de Lot-et-Garonne. Donc, il y a une responsabilité. Il va falloir aussi les prendre. Après, sur les 20%, je pense malheureusement que la Chambre régionale des comptes, elle trace un chemin. Alors, sur les équilibres, 20% sur le foncier bâti plus 5 milliards d'économies, on peut toujours imaginer d'autres chemins. On peut dire 22 et 4, etc. Mais ce n'est pas important. Le mix qui est proposé, malheureusement, je pense qu'il est de bon sens.
On va passer la parole à M. Lozana. Je suis désolé, on a un chronomètre. On vous a donc rajouté, et on les rajoutera bien sûr à M. Lozana. Vous nous avez pris un petit peu plus, 2 minutes 12 en plus qu'on mettra donc tout à l'heure. Stéphane, donc éventuellement avec la suite et la réponse bien sûr de M. Lozana.
M. Lozana, exprimez-vous sur effectivement les préconisations de la Chambre régionale des comptes.
Oui, tout d'abord, je suis très heureux que M. Dionis du Séjour ait fait la démonstration que j'étais à la fois loyal et libre, puisque quand j'ai pensé qu'il fallait être libre, je suis parti du Parti Socialiste. Voilà. Et donc, la démonstration est faite, merci. Le département, c'est un sujet difficile, et en effet, ses finances sont problématiques du fait du RSA, donc des prélèvements sociaux. Il faut avoir un effort très important. Et je crois qu'il faut avoir aussi une vision globale. Alors, d'abord, il va falloir travailler avec le département pour l'aider et voir comment on peut faire. Je peux vous dire que j'ai eu Pierre Camani au téléphone et qu'il est très heureux, si je suis élu, de pouvoir travailler avec moi, parce que jusqu'à maintenant, il y avait des pratiques qui étaient conflictuelles, localement. Conflictuelles.
On l'a avec vu Madame dans les journaux.
On l'a vu dans les journaux, pardon.
Avec Madame Mousteau?
Ah, pas du tout. Non, non, mais avec d'autres responsables de collectivités
importantes. Non, mais soyez précis, allez-y. Vous visez Jean-Denis quand vous dites des conflits avec la présidence du conseil départemental.
Et donc, je crois qu'il faut changer un petit peu les pratiques. C'est à la fois l'ADN du mouvement En Marche, et c'est aussi ma pratique depuis toujours. Voilà, moi je suis connu pour ça dans le dé.
Est-ce que dans le fond, il faut recentraliser ou pas le RSA?
Il va falloir voir comment on traite toutes ces choses-là. Moi, je pense que le RSA, en tout cas, il faut ou des compensations ou en effet le recentraliser. Après, c'est un sujet compliqué puisque ça touche la fiscalité du département. À mon sens, la réforme des départements n'a pas été complètement terminée et on se retrouve dans cette situation-là. Donc, plutôt que de m'exprimer sur une simple mesure, hein, qui est de bon sens que vous posez, il faut quand même avoir une vision globale pour essayer de faire en sorte que ce que l'on donnera au département, il puisse l'assumer. En termes de compétences, ce que l'on donnera en termes de compétences, il puisse l'assumer.
Voilà. parfait. On va passer au sujet numéro 2 avec cette fois-ci l'emploi. Je rappelle que nous sommes en direct depuis les studios de Radio Bulle pour ce débat donc d'entre-deux-tours concernant la Circo donc Agen-Nérac et que ce débat est également diffusé sur tout le Lot-et-Garonne grâce aux radios associées CFM, Espoir FM et Radio 4, donc couverture totale concernant ce débat. On parle emploi maintenant avec Stéphane Bersauter, journaliste groupe La Dépêche, et également donc Bastien Souperbier, journal Sud-Ouest, mais le lancement se fait par Stéphane.
On va revenir un peu sur Agen, on ne l'avait pas trop quitté non plus. On va passer aux sujets locaux. Un député, on l'a dit tout à l'heure, est une sorte de courroie de transmission entre l'Assemblée nationale, les ministères et les entreprises et les collectivités locales. Il y a un sujet qui a émergé il y a quelques mois, c'est le sujet du PSA. Aujourd'hui, le personnel relayé par les syndicats de l'entreprise, il faut rappeler d'ailleurs que c'est quand même 1400 salariés, premier employeur privé du département, ont une grosse inquiétude qui se traduit, enfin ils craignent en tout cas qu'il y ait des pertes d'emplois au travers du transfert à des sociétés extérieures de certaines activités, de certains services au sein des deux usines, parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux usines, effectivement, UPSA à Agen, au passage, et à Agen. Donc, qu'est-ce qu'un député peut faire? Vous connaissez le dossier tous les deux, parce que vous avez rencontré les syndicats. Qu'est-ce que vous préconisez? Vous ne l'avez pas rencontré? Non. D'accord, ok, autant pour moi.
Je m'exprimerai dessus.
J'imagine.
La députée, ils ont eu
Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce qu'il vraiment y a un réel danger? Est-ce que les craintes du personnel sont fondées? Et qu'est-ce que vous seriez à même de faire dès le 19 juin pour effectivement tenter de trouver une solution sur une intention de la direction qui semble claire et quasi définitive?
Bon, d'abord, il y a un sujet plus... Je commence? D'abord, il y a un sujet plus large que ça. Hein. UPSA, c'est, vous l'avez dit, 1400 personnes. Et UPSA est effectivement dans un environnement législatif et normatif qui fait qu'aujourd'hui, il peut se développer, notamment le fait qu'il n'y ait pas de prescription obligatoire en molécules génériques. Donc il faut surtout préserver cet environnement-là. Et il y a des tentations. Il y a des tentations aujourd'hui sur ce sujet-là. Et c'était la mobilisation qu'il y a eu il y a 3-4 ans qui a fait reculer le gouvernement qui, dans un premier temps, avait envisagé d'ouvrir les vannes là-dessus.
Alors ça, c'est plus généralement. Bastien va vous poser une question.
C'est un combat. C'est un combat très très important.
Mais là, c'est autre chose. Là, je vous parle de l'externalisation des services, la menace sur l'emploi direct.
Vous avez raison. Mais globalement, l'enjeu principal, il est l'environnement législatif et normatif. Il faut effectivement ne pas obliger les médecins à prescrire selon la molécule de base. Une fois qu'on a dit ça. L'externalisation, c'est un sujet sur un certain nombre qui touche une centaine de personnes, principalement les gens en charge de la maintenance industrielle et de la restauration. Et donc, il y a un enjeu de savoir si on confie ces fonctions-là à un partenaire extérieur qui est Veolia et sous quelles conditions ça se fait. Donc le personnel est inquiet et c'est normal. Pourquoi? Parce que le fait de confier ça à un personnel extérieur, en l'occurrence Veolia, ça les fait passer d'un statut auquel ils tiennent, BMS, à un statut qui pour eux est différent et le statut de Veolia. La première chose qu'il faut faire dans cette affaire, c'est l'étude d'impact, à savoir qu'est-ce que ça rapporte à BMS, soit transparente. Et qu'on dise, voilà ce qu'on gagne en argent, et pourquoi pas, nous on n'est pas là pour contraindre aussi la vie d'une entreprise privée. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça change au point de vue qualité de service, au point de vue réactivité. Je vais prendre un exemple que tous les auditeurs comprendront. C'est pas la même chose d'avoir un restaurant d'entreprise sur place, qui est d'ailleurs un excellent restaurant. Moi je salue les professionnels qu'il y a là-dedans. Je pense du restaurant de Gascogne au passage d'Agen. Et d'avoir une cuisine centrale Veolia, qui est à 40 km ou je ne sais pas où, et qui sert des choses qu'il faut après réchauffer et uniquement servir dans ces conditions-là. Ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas la même réactivité. Donc, il faut une étude d'impact qui soit combien ça rapporte Et puis en même temps, donc, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change dans le fonctionnement de l'usine. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec les responsables syndicaux pour dire maintenant il faut que vous poussiez la direction qui s'était engagée à le faire à être sur cette ligne-là. J'ajoute que il faut chaque fois qu'on parle de BMS, il faut surtout pas se limiter uniquement aux salariés UPSA. Vous avez des sous-traitants de rang 1, des sous-traitants de rang 2, et il faut avoir une option un petit peu patriotique à genèse, si vous voulez, là-dedans. C'est-à-dire, attendez, moi je consolide la maintenance industrielle, derrière il y a un électricien. Hein, donc c'est CUNY, mais c'est quelqu'un de chez nous. Voyez, et donc c'est en faisant cette consolidation, et donc ça, j'ai appelé personnellement le directeur général de BMS France qui m'a garanti qu'on aurait ces impacts consolidés et que c'est à partir de là qu'il prendrait sa décision. Est-ce que la décision est prise? Il m'a dit, et je veux bien le croire, que non, parce que, encore une fois, ils arbitreront sur les résultats d'études. Voilà où on en est aujourd'hui.
Il faut préciser d'ailleurs que les syndicats, dans le cadre d'un comité d'entreprise, enfin du comité d'entreprise, ont demandé un audit financier des mesures qui pourraient être prises.
Donc, c'est exactement
c'est,
ça.
C'est à préciser. Hein.
Ouais, ouais. J'appelle l'étude.
Monsieur Ozana, sur ce dossier.
Oui. Alors, les syndicats n'ont pas demandé à me voir pour le moment. C'est bien évidemment avec un grand plaisir que je les recevrai dès que je serai élu. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des contacts avec certains syndicats et de me préoccuper donc de ce qui se passe à UPSA. Mais on a parlé là de problèmes techniques. Moi, je voudrais revenir un peu plus sur l'humain. Parce que quelles sont les interrogations des employés d'UPSA, en fait? On parle d'externalisation. Alors, il peut y avoir, en effet, en externalisation, un côté financier intéressant. L'interrogation des employés d'UPSA, c'est de savoir quelle va être leur perte, entre guillemets, de leur statut. Parce qu'on parle d'externalisation, sûrement parce qu'il ne faut pas faire de procès à l'entrepreneur avec reprise de personnel ou autre, mais ils ont actuellement un statut, ils ont une position qui ne sera peut-être pas du tout la même quand ils seront externalisés, même s'il y a reprise du personnel. Et puis, ils peuvent se demander aussi si à terme, l'emploi sera maintenu. Je crois que UPSA, c'est vraiment un de nos fleurons, il faut y faire attention. Mais c'est aussi une entreprise qui, avec BMS, au niveau international, gagne de l'argent. Mais il faut faire absolument attention que localement, cet emploi reste pérenne et que l'entreprise ne soit pas mise en difficulté. Mais je crois qu'il faut tenir les deux bouts. Et donc les préoccupations des employés peuvent aussi s'entendre, ce n'est pas seulement un dossier technique.
Sur le problème de fond que vous évoquiez, Jean-Dionis, Sanofi avait proposé à une époque ils avaient proposé de dérembourser totalement le paracétamol pour justement contourner ce problème des génériques. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne solution? On sait que les Indiens, les Chinois produisent aujourd'hui du paracétamol à des coûts très très bas. Est-ce que le fait de dérembourser complètement ce médicament, en dépit de l'impopularité que pourrait susciter cette mesure, c'est la bonne solution?
Il vous reste 2 minutes, monsieur Dionis.
Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Et quand Marisol Touraine a proposé, encore une fois, le déremboursement du paracétamol, on a fait une étude globale sur qu'est-ce que ça rapportait à l'État français. Et on a vu très clairement que si on consolidait non seulement les quelques économies que pourrait faire sur l'arrivée des génériques sur le paracétamol l'État, mais la perte de toutes les autres recettes fiscales qu'amènerait la délocalisation de la production en Israël ou en Inde, parce que c'est ça les concurrents, l'État français avait vraiment aucun intérêt à aller...
Mais est-ce que ça n'aurait un sur un marché concurrentiel?
Non, je pense qu'il faut, très certainement séparer la prise, je dirais, occasionnelle de paracétamol, telle que vous pouvez la prendre après une journée de compte-rendu électoral épuisante, et puis des gens qui ont... plutôt que après des choses plus chroniques, où les gens doivent en prendre beaucoup, quand ils ont de l'arthrose, etc. Là, il y a quelque chose qui est sans doute à étudier, et qu'il faut qu'on sépare ce qui est, encore une fois, prise occasionnelle de trucs chroniques et de consommation à des niveaux plus élevés. Il y a certainement une voie d'avenir là-dessus, oui.
Michel Ozana.
Oui, tout à fait. Moi, je vais prendre un peu l'angle médical, si vous le permettez. Je trouverais que le déremboursement du paracétamol serait une hérésie. Point. C'est un médicament absolument indispensable. Nous avons beaucoup de médicaments qui ont disparu, qui sont difficilement utilisables. Et s'il est en vente libre, comme dans certains pays, il peut même y avoir des problèmes de surdosage et de toxicité. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des boîtes qui sont de petits conditionnements dans le paracétamol, sachez-le. Donc non seulement sur le plan économique, en effet, je pense que ça ne serait pas le bienvenu, mais en plus sur le plan médical, je pense que là on se fourvoirait un petit peu, je sais bien qu'il faut rechercher des économies, je pense que dans le plan global que défend notre président, le fait de relancer l'économie et de faire baisser le chômage nous donnera aussi un peu de marge sur la sécurité sociale, plutôt que de chercher des économies de bout de chandelle.
Si vous voulez, il vous reste 44 secondes, monsieur Dionis, sur ce sujet, ou c'est bon ?
Non, sur ce sujet, il faut être innovant avec BMS. Et il faut sans cesse être à l'écoute avec eux. Aujourd'hui, il faut notamment que les collectivités territoriales soient toujours en réactivité. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je reste persuadé, j'en ai pas encore convaincu les responsables, mais que UPSA mérite une organisation logistique qui soit plus au point que celle qui est, même si le magasin de la Plaine est bien, etc. Donc, il faut qu'on soit en capacité, nous, on n'est pas uniquement là, si vous voulez, spectateurs. Il faut qu'on soit en capacité de proposer des solutions, des choses.
La logistique de PSA, soyons clairs, bascule rive gauche sur votre projet.
On va s'arrêter là, Stéphane, pour la réponse.
Sur la logistique, on veut donner par tous les moyens à BMS les moyens de se développer. On a d'ailleurs dit que s'il fallait l'hippodrome propriété de la ville d'Agen serait mobilisé pour BMS, vous savez que voilà, et donc on installerait ailleurs la société des courses, mais bien évidemment aussi le Technopôle Agen-Garonne peut être mobilisé. Il faut être extrêmement réactif pour permettre le développement de
UPSA ne fait pas encore les produits vétérinaires.
Merci monsieur Dionis. Monsieur Lozano, il vous reste du crédit temps sur cette question, vous voulez l'utiliser ou on la met de côté ?
Sur cette question, je crois qu'on
la met de côté. Hein, donc d'accord. Donc on rappelle que nous sommes toujours en direct depuis donc les studios de Radio Bulle pour ce donc débat d'entre deux tours concernant la circo numéro 1 Agen-Nérac. On vient de parler médicaments. Les médicaments, eh bien, il faut les prescrire. Et on va parler donc désertification médicale, puisqu'il faut bien sûr en parler. Et c'est Bastien donc Souperbier, journal Sud-Ouest, qui lance la question.
Donc c'est un sujet évidemment très préoccupant pour nos concitoyens. Lot-et-Garonne, comme toutes les zones rurales, connaît cette désertification médicale, elle en souffre. On sait qu'il faut des délais assez rédhibitoires pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Aujourd'hui, il y a eu un débat d'ailleurs récemment au Parlement sur le sujet. Est-ce que selon vous, il apparaît incongru, vous qui êtes des libéraux, si on a bien compris l'un et l'autre, demander à des médecins ou de les contraindre à s'implanter dans des zones qui seraient défectueuses. On le fait pour les pharmaciens. Pourquoi on ne le ferait pas pour les médecins? C'est la question. Sachant que un village comme Tombeuf, par exemple, n'aura jamais la même attractivité que Bordeaux ou Toulouse, et qu'il apparaît illusoire aujourd'hui de doper cette attractivité au point de faire venir des médecins en masse. Peut-être Michel Lozana sur le sujet.
Oui, comme ça on va pouvoir utiliser le crédit temps qui vous reste aussi.
C'est un sujet qui me touche particulièrement et qui me fait bouillir par moments en tant que médecin. Je suis confronté à ça tous les jours. Il y a deux réponses à ça tout d'abord. Il y a la désertification médicale à proprement parler. Alors vous proposez une solution, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, j'allais dire. Je crois que le premier élément à mettre en avant, c'est d'abord d'augmenter le nombre de médecins, parce que nous sommes en pénurie. Et on est en pénurie à tous les niveaux. Alors vous pouvez bien les obliger à aller s'installer n'importe où. Il faut quand même du renouvellement dans les autres zones, et on ne sort pas actuellement assez de médecins. Alors il y a eu des petites avancées, on commence à augmenter, mais vous savez, pour faire un médecin, c'est minimum 8 ans. Voilà. Et j'allais dire, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, travailler sur l'environnement, et ça c'est important. Il faut donner envie aux jeunes médecins de s'installer. Et je dis ça parce qu'il y a de plus en plus de jeunes médecins qui partent en médecine salariée. La médecine générale, qui est celle de nos campagnes, c'est de celle-là que je vais parler, désertification, c'est la médecine générale, n'est plus attractive. n'est plus attractive financièrement. Il y a des gros problèmes, c'est pour ça qu'en faisant 35 heures, les jeunes se retrouvent et partent donc en médecine salariée. Mais aussi, il est difficile en termes de responsabilité et d'environnement. Avant, le médecin travaillait tout seul, ce n'est plus possible. D'où la réponse des maisons médicales, mais qui sont qu'une réponse de deuxième niveau. Voilà, le premier niveau, donc, d'ailleurs dans le programme de notre président, il y a évidemment doublé les maisons médicales, c'est important, mais le premier niveau, c'est celui que j'ai dit. Dernier point qui me paraît très important, il faut que nous fassions de nos petits villages des lieux encore où il fait bon vivre. Et là-dessus, le programme d'Emmanuel Macron nous donne un élément très fort qui est le désenclavement numérique. Alors, je vais vous donner un exemple. Je parlais avec un radiologue qui me disait, mais avec par exemple le regroupement de l'hôpital à Général, vous n'avez pas de radiologue là-bas. C'est nous qui le faisons, il faut du numérique. Et dans tous les coins reculés, entre guillemets, je crois qu'on peut mettre en avant notre art de vivre et notre qualité de vivre. Moi, il y en a beaucoup qui... Je vois des gens en consultation qui me disent on est venu dans ce département parce que c'est plus agréable pour élever des enfants, pour vivre tout simplement. Quand on est dans les grandes métropoles, c'est beaucoup plus cher ou autre. Donc on peut faire dans nos petits villages, je crois, des lieux avec évidemment des services publics regroupés. Hein, maintenant, on commence à savoir le faire et ça, il faut avoir une action forte et faire donc après des lieux où on combat la désertification, y compris médicale. Et je crois que là, on trouvera des gens aussi pour s'installer dans ces lieux-là.
Monsieur Dionis, ça ne vous paraît pas illusoire, vous, de faire venir des médecins dans le fin fond de l'Albret, alors qu'il n'y a pas de cinéma,
il
y a de moins en moins d'écoles, il n'y a pas de poste.
Vous faites une excellente réponse, monsieur Superbi. Non, donc moi je pense d'abord que le discours de Michel Ozana, il est, j'allais dire, il y a des éléments justes, mais il est trop gentil. Oui. Cette affaire est beaucoup plus lourde et beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus explosive que ça. Et c'est pas uniquement les médecins. Et moi, si je suis élu, je vous assure, je porterai cette révolte du monde rural par rapport à la France métropolitaine. Il y a vraiment quelque chose maintenant qui est insupportable. Ça a été dit et écrit dans des bouquins. Le partage de la richesse, le partage des projets est absolument insupportable, injuste, et donc il faut le changer. Qu'est-ce que vous voulez? Alors tout ce qu'on a dit est vrai. Numerus clausus, oui, il faut le desserrer.
Qu'il faut contraindre.
Alors, l'harmonisation européenne aussi, c'est quand même très important. Tant que vous aurez cette espèce de foutoir, c'est-à-dire où on nous envoie nos enfants à Liège, à Bucarest, et puis on fait rentrer des gens dont on ne contrôle pas le niveau médical, il y a un énorme travail donc à faire au niveau européen à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut contraindre? Il faut inciter. Moi, je suis toujours pour les incitations positives plutôt que la contrainte. Donc, les médecins ont une culture de liberté, ça se respecte. Par contre, que l'État, effectivement, que ça soit fiscalement ou autre chose, des dispositifs d'incitation positive, oui, trois fois oui. Mais encore une fois, ça suffit pas. Il faut un discours qui soit là-dessus beaucoup plus dur que celui de Michel Ozana. Vous n'aurez pas de mouvement inverse dans le milieu rural si vous n'avez pas un changement de fond. Vous ne ferez pas venir à Mézin un jeune couple avec médecins et des jeunes enfants, s'il n'y a pas une école de qualité, vous ne ferez pas venir, Michel Lozana l'a dit, ces gens-là qui sont dans cette génération. Mais vraiment, au niveau de l'État, il y a un partage de la richesse à réexaminer complètement entre la France des métropoles qui elle-même a ses ressources et la France périphérique qui, elle, a besoin de manière tout à fait différenciée du soutien de l'État. Quand on dit pour 1 euro pour les villes, 1 euro pour le rural, on est sur quelque chose d'extrêmement fort, vous voyez. Donc, et si vous n'avez pas cette remise en cause un peu de fond des aides de l'État, alors vous êtes sur un discours un peu gentil, mais qui ne changera rien. Ouais,
Donc, monsieur Lozana, si on suit bien Jean-Denis, vous n'êtes pas assez dur, donc vous êtes trop mou, quoi.
Vous inquiétez pas. J'ai vocation à être à l'Assemblée, un de ceux qui va se préoccuper le plus de ce sujet que moi je vis tous les jours. Alors voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous sommes même obligés, et c'est douloureux, moi j'ai pris beaucoup de personnes âgées qui sont venues même quasiment j'allais dire en pleurant, mais qui ne trouvaient pas de médecin dans l'environnement, et même dans périphérie d'Agen, là où je suis, qui est une zone entre guillemets semi-protégée, on commence à avoir déjà ces effets-là. Donc non, il ne s'agit pas de mollesse ni rien. On peut rester au niveau des discours. Moi, j'ai des idées bien évidemment très précises. J'ai aussi rencontré le président du Conseil de l'Ordre. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord, d'autres moins, mais on discutera, on avancera. C'est un même des principaux sujets sur lesquels je veux m'intéresser, c'est clairement. Mais je dis que c'est une globalité dont il faut se préoccuper. Il faut désenclaver, et moi je reçois, je le répète, hein, c'est pas vrai, je reçois des gens qui sont venus dans le Lot-et-Garonne pour la qualité de vie. Donc si on procure à la fois des services et à la fois un désenclavement numérique, je suis persuadé qu'on arrivera à mettre en avant nos valeurs de Lot-et-Garonne, parce qu'on le voit un peu trop enclavé. Et moi je ne suis pas à genoux centré, hein, je dis pas aller à Agen, c'est aller tout le territoire. C'est à Agen-Meyrac qu'il faut voir dans sa globalité.
Alors justement, on va rester dans le domaine de la santé. L'Agence régionale de santé, justement, c'est-à-dire l'organisme tutelle, hein, de la santé publique en France et en Nouvelle-Aquitaine, a préconisé la réorganisation des services entre Agen et Meyrac au détriment, disent les syndicats, du service public de santé à l'hôpital de Meyrac. Est-ce qu'il faut revoir la copie? Est-ce qu'on reste sur ce schéma de transfert de services avec, disent-ils toujours, une centralisation des services principaux au centre hospitalier d'Agen? Monsieur Lozana,
vous aviez
la main, continuez.
Oui, c'est l'éternel problème des petits hôpitaux. La médecine a profondément évolué. Même depuis que je suis installé, ça fait 30 ans, ce n'est plus du tout la même médecine. On ne peut pas travailler de la même manière dans les petits hôpitaux, entre guillemets, ce qui n'a rien de péjoratif, qu'il y a 30, ne serait-ce que 30 ans. Il faut que ça évolue, sinon le service rendu à la population n'est pas bon. Ne serait-ce que pour avoir un service d'urgence avec des opérations, vous êtes obligé d'avoir minimum un nombre d'anesthésistes important parce qu'il faut que ça tourne ou autre. Donc on ne peut pas continuer tel que c'était avant. Donc il faut transformer les petits hôpitaux en hôpitaux de proximité et en lien avec des grands hôpitaux comme celui d'Agen, qui a vocation à se renforcer et à irriguer le territoire. Et puis nous avons, et il faut le dire parce que quand on parle hôpital, on a aussi une clinique qui est très bien classée, donc je crois qu'il y a des complémentarités à trouver. Je vous parlais de radiologue tout à l'heure, c'est un radiologue de la clinique qui nous disait, mais c'est nous qui lisons les radios. Voilà, je crois qu'on peut travailler mieux sur le territoire, mais on ne peut pas, malheureusement, conserver des hôpitaux de proximité performants comme on les avait, comme c'était suffisant, ne serait-ce qu'il y a 30 ans. La médecine a beaucoup évolué, on demande de l'excellence. On ne se ferait pas opérer par un chirurgien qui fait deux appendicites ou trois par an ou par mois.
Jean-Denis ?
Oui, je crois qu'il faut avoir les idées plus claires que ça. Hein. Donc, en clair, il faut soutenir le chantier du plateau technique d'Agen. Ça a été un combat et pendant très longtemps, l'hôpital d'Agen a été quand même maltraité au niveau des subventions d'État, que ce soit sur le plan hôpital 2002 ou 2007. Et donc pour la première fois, ça se débloque. Donc il faut un plateau technique de très haut niveau à Agen et moi je suis content que ce chantier démarre. Mais en même temps, il faut parler clair. Il faut des urgences à Meyrac. Et pas uniquement un service de médecine ou l'accueil de personnes âgées, bien sûr qu'il faut. Mais il faut des urgences en Irak.
Donc vous préconisez le retour des urgences.
Il faut des urgences en Irak, c'est clair. Il faut une capacité, y compris sur des petites urgences, à intervenir chirurgicalement en Irak. Et moi j'y crois beaucoup. Pourquoi j'y crois? Parce que je connais bien la géographie de la circonscription. Donc vous avez qu'à le faire en allant vite, Saint-Pé-Saint-Simon, l'hôpital Saint-Esprit. Vous mettrez une heure. Hein, et donc, cette heure-là, c'est trop. Et donc, moi, je crois qu'il faut articuler le chantier du plateau technique, du plateau technique, encore une fois, de haute qualité à Agen. Et deuxièmement, un service d'urgence, mais qui ne soit pas de façade à Meyrac. C'est très clair dans ma tête là-dessus. Tant qu'on est là, tout à l'heure, on a parlé des médecins.
C'est une démarche d'ensemble. Là aussi, il faut être positif et offensif. Premièrement, Agen va déposer un dossier pour avoir une première année de médicale, d'études médicales, comme Paula, notamment. Et je crois beaucoup à ce dossier. Donc il faut qu'on s'inscrive dans le premier cycle médical. Deuxièmement, il faut que on accélère le chantier de la nouvelle école d'infirmières. Maintenant, on a trouvé un bon site. Ce site, l'hôpital, puisque l'hôpital veut récupérer son volume, il faut maintenant l'installer. Et l'installer où ? Je trouve qu'on a un très très bon site à l'ancienne Massif. Vous voyez ? Bon, tout ça, ça fait partie d'une politique qui doit être offensive sur Agen Érac. Et bien sûr, encore une fois, Agen Érac. Et j'insiste sur ce que doit être la réalité de Érac. Si, parce que derrière un discours gentil, si Érac, ça devient uniquement de l'accueil de personnes âgées, alors il y aura une dégradation. Et alors on sera dans le problème dont on parlait tout à l'heure, qui est de plus en plus inadmissible pour les gens.
On passe au quatrième sujet, si vous voulez éventuellement, vous pouvez, hein, il vous reste du temps.
Non, juste... Vous avez les communes limitrophes des Landes qui vont vers les Landes parce que c'est beaucoup plus près, il y a des accords avec les pompiers, et voilà. Donc ces communes-là sont mieux desservies en allant sur les Landes. Et c'est très bien d'avoir une vision qui ne soit pas renfermée sur ces seules frontières. Deuxième chose, on est bien d'accord, ça ne peut être que des petites urgences. Voilà. Qui est un système d'urgence, je suis d'accord, mais ça ne peut être que des petites urgences. On a un autre problème sur l'école d'infirmières. Il va falloir quand même se mettre d'accord. Je crois qu'on est le seul département à avoir 3 écoles d'infirmières. C'est une hérésie. Il faut d'abord régler ce problème avant de vouloir construire. Vous en avez une à Villeneuve, une à Marmande, une à Agen. Je crois qu'on est vraiment le seul département là-dessus. Donc mettons-nous autour de la table, résolvons ce problème avant de vouloir l'augmenter. Alors si ça se fait à Agen, moi je serai évidemment très heureux parce qu'il y a l'hôpital d'Agen qui est derrière et ça doit se faire à Agen. Mais il faut envisager globalement sur le département ce sujet.
Quatrième sujet, toujours en direct depuis les studios du Radio Bulle, diffusé également sur CFM Radio, Espoir FM et puis Radio 4 avec nos confrères bien sûr du journal Sud-Ouest et La Dépêche du Midi. Quatrième donc thème, sécurité et radicalisation, il faut en parler bien sûr, et Sébastien Souperbier, donc le journal Sud-Ouest qui lance la première question, et puis bien sûr Stéphane Bersautère, journaliste groupe La Dépêche, interviendra également.
Alors on parlait de santé jusqu'à maintenant, on sent bien que notre pays est malade à certains endroits, puisque parmi les terroristes qui ont pu commettre des attentats, d'autres qui s'apprêtaient à le faire, on retrouve des jeunes Français. Aujourd'hui, c'est quoi la solution selon vous ? C'est plus de répression, continuer l'état d'urgence, ou trouver des solutions plus profondes pour justement rattraper ces gens-là qui perdent pied avec leur pays natal. Jean-Yonis.
Moi, j'ai écouté quelqu'un de très intéressant. C'est un jeune Agenais brillant qui incarne le talent Agenais, qui s'appelle David Jais. Et je suis allé l'écouter dans mon ancien lycée, Bernard Palissy. Et franchement, ça a mis de l'ordre dans mes idées. Je vous recommande la lecture du livre de David Jais, La guerre civile n'aura pas lieu. C'est un livre brillant. Il dit, bon, mais bien sûr, il faut mener la guerre au niveau de la radicalisation. Il dit, il ne faut pas être naïf. Il faut notamment avoir une culture générale qui vous dise qu'est-ce que c'est que le djihad, où est-ce qu'il est né, pourquoi il y a... Et notamment ne pas faire l'impasse sur les racines religieuses du djihad. Et puis derrière ça, eh bien, il y a une guerre à mener. Il faut la mener efficacement. C'est d'abord une guerre du renseignement. Donc il faut donner les moyens au renseignement humain, mais aussi informatique sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, oui. Et puis ensuite, il faut que la France tienne sa place dans les coalitions internationales. C'est en train d'être fait. Et j'en profite, moi, pour saluer nos soldats qui y sont. Que ce soit en Irak, à Mossoul ou à Raqqa, en Syrie, il y a des gens qui essayent aussi de régler le problème au cœur. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'était l'intérêt de l'intervention de David Jais, il dit, vous devez regarder en face que ça soit les gens du Bataclan, de Saint-Étienne-du-Rouvray, etc., ce sont des Français. Hein. Et donc, il faut
vous penser comme Emmanuel Macron, finalement, parce que c'est ce qui avait soulevé, que la France a quelque part une part de responsabilité dans la perte de ces enfants-là.
Je pense effectivement qu'il faut ne jamais oublier que ces gens-là sont des Français. Et donc, il y a un certain nombre de politiques publiques extrêmement fortes qu'il faut faire aujourd'hui.
David Jacques propose dans son livre un service national. Et il ne serait pas militaire. Hein,
oui, mais je vais vous prendre un exemple, moi, beaucoup plus à jeûner. On a des quartiers où il y a potentiellement ces problèmes-là. Ben, il faut y travailler. Hein. Il faut y travailler, et la municipalité que je conduis, elle, franchement, l'honneur de cette municipalité, c'est d'avoir traité les problèmes. Hein. Quand il a fallu retaper les logements de Montanou, on les retape. Quand on veut faire aujourd'hui une école digne de ce nom à Montanou, on l'a fait. Hein. Donc oui, il y a un certain nombre de choses.
Retour au service national.
Retour au service national. La solution telle qu'elle est proposée par Emmanuel Macron ne me semble pas très intéressante. Elle est un petit peu de l'ordre du gadget, c'est l'été, c'est dans des périodes creuses. Mais écoutez, c'est à regarder, c'est à évaluer. Moi, je suis... C'est compliqué, service national. Hein. Vous êtes avec des classes de personnes de 800 000 personnes, ça coûte 2 milliards d'euros par an. Est-ce qu'il faut vraiment faire ça ou quelque chose de plus ciblé?
Et ça décloisonne les ghettos sociaux, culturels, religieux.
Il y a des choses à faire là-dessus. Je dis juste, pour le moment, mes réserves par rapport à un service national centré l'été, etc., tel que ça a pu être... Mais ce qu'il faut qu'on regarde avec les yeux grands ouverts, c'est que les terroristes... qui ont agi chez nous sont des Français. Et donc, il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont failli, notamment au niveau de l'école et notamment au niveau de l'emploi et aussi de la discrimination. Ça, il faut les mener fortement, ça c'est clair.
Est-ce que vous pensez qu'un député, quel qu'il soit, doit effectivement avoir accès aux informations locales départementales qui sont délivrées au préfet par les services compétents?
Alors, un député, à mon avis, non. Le maire, oui. C'est un débat d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il faut que le maire ait accès au fichier S, etc. Je vais vous dire, il faut que ça communique. Et notamment le maire donc a un pouvoir de préemption sur les bâtiments. Et il m'est arrivé, parce que j'avais ce pouvoir de préemption et que j'examinais ce qu'on appelle les déclarations d'intention d'aliéné, de dire, waouh, cette famille-là, on la connaît. Hein. Et à ce moment-là, de reboucler avec le renseignement intérieur et sur des dossiers lourds. Donc je pense qu'il faut que la communication maire-service de renseignement soit optimisée et soit plus fluide qu'elle ne l'est encore. Ça a commencé. Il faut savoir qu'on commence à échanger des informations. Moi j'ai une réunion, pas uniquement sur ce sujet-là, mais j'ai une réunion de sécurité tous les mois avec le procureur de la République et le directeur départemental de service public. Donc là-dessus, on y est. Mais il faut qu'on accroisse ça encore, ça c'est clair.
Chez Lozana, le rôle du député.
Oui, c'est un sujet très important et qui nous a meurtri. On ne va pas rappeler Londres dernièrement. Moi, tout d'abord, ce que je trouve et qu'il faut mettre en avant, c'est que la France a retrouvé de la crédibilité au niveau international. Ce n'est pas rien. Si on veut agir, si on veut avoir des actions en commun avec d'autres pays, il faut avoir retrouvé cette crédibilité. Et le président, nous a permis de retrouver à l'international cette crédibilité, y compris en Europe, vous le savez. On le voit tous les jours. Et ce qui est proposé, alors bon, vous parliez par exemple du service national. À travers cette mesure, qu'est-ce qui est important? C'est quand même de retrouver un sentiment commun, un sentiment de la France, quelque chose que nous avons en commun. Et on a eu des dérives depuis des années dans l'autre sens. Donc c'est pour cela qu'on parle de service national ou autre. Il faut qu'on retrouve le sens d'être français tous ensemble. Donc ça, c'est la première des choses.
Donc c'est mener un débat sur l'identité.
Attendez, c'est pas un débat sur l'identité, pardon. C'est un débat sur la laïcité et sur le non-communautarisme. C'est pas la même chose. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'on a eu des dérives. En parlant de livres, vous avez peut-être lu celui de Céline Pina, qui du coup s'est sortie de l'équipe dans laquelle elle était, l'équipe politique, hein, parce qu'il y a eu des dérives. Et ça, ce sont souvent des dérives que l'on trouve sur le terrain pour des raisons souvent politiciennes. Il ne faut pas se cacher les choses.
Il y a des gens qui ont eu des dérives politiciennes parce qu'ils s'accrochent à leur pouvoir, parce qu'ils veulent être réélus, et qui sont des politiques professionnels et qui vont vers des dérives communautaristes qu'ils ont laissé faire. Il ne faut plus ça. Il faut qu'on retrouve le sens de la France d'être tous ensemble. Et ça, c'est très important parce que c'est dans notre ADN. On l'avait un petit peu perdu de vue. On croyait que c'était un acquis, la laïcité. On croyait que c'était un acquis, que tout le monde l'a partagé, qu'on était un modèle pour le monde. Ce n'est pas vrai. Donc ce travail-là, il faut le refaire. Et il faut à nouveau être fier d'être français. Et je crois que là, petit à petit, c'est vrai qu'on a une part de... Comment le nier, nous, quand on a des djihadistes qui seront... Enfin, en tout cas, des gens qui se réclament du djihadisme dans notre pays, on se pose la question, sinon nous serions des irresponsables. Mais retrouver le sens de la France et de notre fierté d'être français. Moi, je suis un fils d'immigré. Donc voilà, je vous le dis, moi je me souviens la fierté de mes parents qu'ils ont été naturalisés. Voilà, je me souviens, j'avais 6-7 ans. Pour vous dire, ça les a marqués. On était fiers de devenir français. Je crois qu'il faut retrouver ce sens-là, moi j'y tiens profondément.
Il faut rappeler d'ailleurs que vous avez un point commun dans ce domaine, c'est qu'à Agen comme à Bonencontre il y a quelques années de ça et à Agen très récemment, des suspects de radicalisation ont été interpellés, remis en liberté par la suite, mais il y avait effectivement... dans leur dos une enquête concernant des suspicions de radicalisation et de départ en Syrie.
Ouais.
On conclut sur ce sujet, vous êtes d'accord? Oui. Et on va essayer d'équilibrer un petit peu les temps et on débordera un petit peu pour que éventuellement vous récupériez les temps. On va donner les calculs de temps qu'on rattrape tout ça. En tout cas, je lance le quatrième sujet. On va l'appeler BIS, hein, 4e BIS, avec cette fois-ci la LGV qui va être le second sujet, enfin le quatrième sujet BIS, voilà, je vais y arriver. Et c'est Stéphane, journaliste groupe La Dépêche, qui va lancer la première question. Et je jette un œil et il va falloir que Monsieur Lozana vous rattrapiez un petit peu de temps. Donc si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas à mettre des mots, il n'y a pas de problème. Voilà.
Oui, nous les journalistes, on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc on est à l'heure cette fois-ci, mais on va quand même rouler, essayer de rouler à 320 km/h pour finir cette émission. On va parler des lignes à grande vitesse. Donc, et dans quelques jours, Bordeaux sera à 2 heures de Paris, Agen à 3 heures de Paris. La question est simple, messieurs, c'est pas une question piège. Est-ce qu'on poursuit le projet, grand projet du Sud-Ouest, GPSO, entre Bordeaux et Toulouse? Alors, on parlera pas de Bordeaux-Hendaye. C'est pas pour l'instant la question. Où est-ce qu'on arrête tout parce qu'effectivement, vous le savez aussi bien que nous, il y a d'énormes problèmes de financement de cette ligne qui aujourd'hui est estimée à environ 10 milliards d'euros.
C'est moi qui commence.
Oui, Jean-Denis, allez-y. Montez votre train.
Moi, c'est si vous voulez. D'abord, l'arrivée de la LGV à Bordeaux est un événement considérable. Il y a une desserte à peu près de 33 trains, c'est-à-dire sur 17 heures d'un train toutes les demi-heures. Donc il faut se donner le temps d'évaluer l'impact de cet événement, notamment sur l'aéroport et sur la ligne Agen-Paris. Donc premièrement, étude d'impact de manière un peu systématique, forte. Deuxièmement, sur Bordeaux-Toulouse. Alors pour le coup, moi j'ai pris maintenant une certaine distance par rapport à cette affaire. C'est à l'État d'être sérieux. Est-ce qu'il veut ou non ce projet? C'est à lui de le dire. Ça coûte 9 milliards d'euros, on le sait. Et donc il y a une chose maintenant qui est claire dans ma tête, c'est qu'il n'y aura plus un euro d'argent à jeûner sur ce projet. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nous demander tout et son contraire. On ne peut pas nous demander donc de dire, écoutez, faites avec moins d'argent, on vous baisse les dotations, ce qu'on nous a demandé fortement. Il faut savoir que sur l'agglo d'Agen, hein, c'est en 3 ans, alors qu'on avait 6 millions d'euros de DGF, on a 3 millions d'euros. On a fait moins de 3 millions d'euros. Et en même temps, de financer des projets qui sont des projets d'État. Maîtrise d'ouvrage, d'État. Donc, et si je lis bien le programme du président Macron, alors, il n'est pas très précis, mais sur ce point-là, c'est clair, il a demandé 10 milliards d'économies aux collectivités locales, c'est-à-dire à peu près ce qu'a demandé Manuel Valls. Donc là, moi, je le prends au sérieux, et je dis, bon, les baisses de dotation vont continuer. Et dans ce contexte-là, donc, déjà, pas un euro d'argent à jeûner pour la ligne LGV. Est-ce que ça se fera? Moi, vous savez, je connais bien les forces en présence là-dedans. Hein. Est-ce que notamment l'État et la métropole toulousaine l'imposeront, ça, c'est à voir. Nous, là-dedans, on prend nos distances et on regarde exactement ce que fera l'État sur ce sujet-là.
La crainte, c'est de... Est-ce que c'est pas de voir passer les trains, du coup, si un jeune ne donne pas son...
Non. Alors, pour le coup, les décisions de fond ont été arrêtées. Si ça doit se faire, décisions de fond ont été arrêtées. Un tracé a été arrêté. L'arrêté tracé, il est 2012. On sait où va passer le train. On le connaît en détail, ce tracé. Le problème, c'est pas le tracé, c'est pas la gare. On sait qu'il y a deux gares. La gare d'Agen, elle, ne sera jamais contestée en termes de gare intermédiaire. S'il y en a une à être contestée, c'est la gare de Montauban, qui est beaucoup plus fragile que nous. Mais Agen, 140 d'un côté, 110 de l'autre, ne sera pas contestée. On a un plan de dessert qui est 11 trains dans un sens, 11 trains dans l'autre. Donc on a là-dessus quelque chose qui est sérieux. Ce qui n'est pas sérieux, c'est le financement. C'est clair. Et donc nous, on se positionne, pas un euro d'argent à jeûner sur ce
projet. On va revenir sur la gare, mais Michel Lozana sur...
Rapidement. Alors, le financement est le gros problème de cette ligne. Et après, il y a les impacts locaux. Bien évidemment. Moi, ce que je veux dire, pour aller vite, donc l'État, en effet, doit envisager ce qu'il veut faire. Il y a quand même un plan de relance qui est prévu, très important, au niveau national, par le gouvernement. Vous le savez, vous avez lu le programme du président Macron. C'est très, très important. Il faut quand même que le député pèse lourdement pour que nous ayons une desserte suffisante, des arrêts suffisants, dans cette gare LGV, si elle passe. Moi, j'ai rencontré des opposants dans l'Albret, parce qu'il n'y a pas qu'Agen là-dedans. Il y a l'Albret qui est, moi, j'ai rencontré même sur des marchés à la Vardac, par exemple, quelqu'un que j'ai revu et qui m'a expliqué que, d'après lui, on n'aurait pas d'arrêt. Alors, c'est clair, le rôle du député.
Non, mais. Il y a 11 arrêts prévus.
Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Je te dis les interrogations qu'il y a sur le terrain. Et donc, là-dessus, le rôle du député, ça sera de le garantir. Et je veux terminer en disant que, pour être entendu sur ce dossier comme sur d'autres, un député, il doit faire partie de la majorité. Si on veut peser, ce n'est que dans la majorité qu'on le peut. Et ça, personne ne peut le contester. Il faut donc que le député puisse être entendu. En faisant partie de la majorité, il pourra défendre son territoire bien mieux que si on est dans l'opposition.
La gare LGV, on la laisse rive gauche?
Non, pas du tout. Deux choses. D'abord, c'est quand même une drôle de conception de dire que seul le député de la majorité pèse.
Alors ça, c'est un point de vue démocratique, c'est le pompon. Non, bien sûr que non. Les députés, ils pèsent. Ils arriveront avec leur connaissance des circuits. J'aurai un peu d'avance sur toi. Oui, avec le carnet d'adresse, j'aurai aussi un peu d'avance sur toi dans certains ministères, notamment avec François Bayrou pour l'extension des nappes, etc.
Non entendu.
Et donc, mais pas du tout. Mais ça se voit que tu as des choses à apprendre. Alors une fois qu'on a dit ça, la gare restera rive gauche. Aujourd'hui, elle est positionnée là. Hein. Donc, et là, pour le tracé, le tracé fait. Mais moi, je voudrais revenir sur une chose. Sur ce dossier, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est, et qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur maintenant, on va durcir le ton et l'action par rapport à un certain nombre d'interlocuteurs. Il y a une fragilité majeure, c'est l'aéroport. Il faut savoir qu'un certain nombre de gens, notamment au conseil régional, mais aussi au conseil départemental, parce qu'ils sont dans une situation financière très compliquée et qu'ils contribuent à plus de 2 millions d'euros par an au financement de la ligne Agen-Paris. Et donc là, on a un combat à mener qui sera très dur. Et je serai en première ligne de ce combat, pour...
On va vous arrêter après, monsieur Dionysé, pour le temps.
J'ai 8 minutes de retard.
Combien ? Voilà.
8 minutes.
Voilà.
8 minutes
on va les rattraper maintenant, hein, 8 minutes. Vous inquiétez pas. Ouais. Il refait ses comptes, vous inquiétez pas, il est en train de les rattraper. Mais allez-y, monsieur Lozana, on va essayer de rattraper.
Moi, je croyais qu'on terminait, j'ai essayé de faire des réponses.
Non, allez-y.
Il n'y a pas 8 minutes de retard.
Monsieur Dionysé, s'il vous plaît, on est sur une radio locale, on peut déborder, on ne va pas vous couper le micro maintenant, ne vous inquiétez pas.
Il y a 11h, moi je suis...
Non. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça.
Juste pour répondre
à... Vous prenez votre temps aussi.
Oui, juste pour répondre à monsieur Duséjour,
Attends, t'es gentil.
On va se dire ici, s'il vous plaît.
Non,
il va se dire ici, s'il vous plaît.
Dionis du séjour, si tu veux.
D'accord.
Monsieur Dionis du séjour.
Non, mais tu vois quel
Monsieur Dionis, vraiment. Prenez du chrono, s'il vous plaît. Monsieur Dionis, s'il vous plaît.
Alors, maintenant.
Pour nous, pour le CSA, s'il vous plaît, venez pas nous prendre du temps, parce qu'après, il va falloir rééquilibrer. Ça va être
juste.
Monsieur Dionis, vous êtes obligé d'appuyer à chaque fois.
Dionis du séjour. Je vous rappelle que quand c'était vous qui défendiez une majorité qui devait être portée à l'Assemblée, vous disiez exactement l'inverse, qu'il valait mieux donc avoir un député de la majorité pour faire
un vote.
Voilà. Non, mais c'est tout. Donc c'est bien de changer de position au fur et à mesure donc de l'environnement et donc là-dessus on peut être clair. Alors c'est vrai que la LGV posera le débat de cet aéroport, parce que les financements des collectivités locales est contraint. On a parlé du département tout à fait au début. Voilà. L'agglomération d'Agen, dont je suis solidaire, bien évidemment, et avec laquelle je travaillerai aussi. Et donc, c'est malheureusement un atout, encore un aéroport, mais pour lequel la région n'assume pas ses responsabilités. Après, on comprend bien qu'à 3 heures de Paris, le devenir de cet aéroport peut être posé.
Voilà. C'est peut-être pas clair là-dessus. Hein.
Non, sur la LGV. La LGV, on sera à 3 heures. Oui, et bien, je te dis que la question va être posée, ouais, en effet. Parce qu'en termes de financement, on ne peut pas faire dans les financements publics n'importe quoi. Il faut bien évidemment le défendre. J'ai dit que c'était une opportunité, donc je le répète parce que tout le monde n'entend pas. Donc c'était une opportunité. On va le défendre, mais après il faut être responsable. À 3 heures, il sera posé. Si c'est pas nous qui la posons, ça sera d'autres. Donc voilà là-dessus sur la LGV. Vous posiez la question de la gare.
La gare rive gauche. Qu'est-ce qu'on en fait? Jean-Dionis dit elle est positionnée aujourd'hui rive gauche. Est-ce qu'on doit revoir ce projet? D'ailleurs, elle a bougé au fil des mois. Enfin, son emplacement a bougé au fil des mois. Ou est-ce qu'on dit non, terminé
c'est là, on ne peut pas faire passer
le financement est trop élevé.
TGV en gare d'Agen. On ne peut pas envisager des aménagements suffisants pour qu'un vrai TGV se détourne, puisque dans tous les cas, le trajet sera de l'autre côté de la Garonne. On ne peut pas envisager donc de faire passer la LGV jusque dans la gare d'Agen, plein centre-ville. Voilà.
Si... Vous avez encore du temps, monsieur Lozana.
Oui, justement, on va rester dans les transports, parce que dans cette affaire d'aéroport de la Garenne, Garenne, il y a quand même un élément qui est important, c'est la suppression de la brigade des douanes.
Oui.
Pour nos auditeurs, la suppression de la brigade des douanes à Agen modifie le point de passage frontalier de l'aéroport. Ça veut tout simplement dire que des appareils hors Schengen, hors Europe, enfin hors territoire Schengen, ne peuvent plus atterrir ou décoller de l'aéroport. Donc ce qui est une manne financière qui s'en va de l'aéroport, ce qui fragilise effectivement le budget global de l'aéroport de la Garenne. Si vous êtes élu, monsieur Lozana, est-ce que vous allez faire en sorte, et y arriver, de changer ce plan national de réorganisation des douanes et de laisser cette brigade des douanes à Agen?
Là aussi, je reprends ce que j'ai dit, je crois qu'un député de la majorité peut être plus entendu. Et je vais vous dire pourquoi. Moi j'ai reçu donc les syndicats qui m'ont expliqué le problème, et je veux défendre en effet ce système de douane que nous avons à Agen. Et nous avons, c'est une chance, un ministre qui a été le seul, je crois, ou un des seuls, à poser une question au gouvernement à l'époque, et c'était Bruno Le Maire. Donc Bruno Le Maire est sur cette position-là. Il a pris contact avec les douanes, il a posé cette question, et donc je pense qu'on va pouvoir faire entendre la défense des douanes et la persistance des douanes à Agen. Moi j'ai vu les chiffres, c'est très clair. Malgré la baisse des effectifs qu'il y a, ils ont une efficacité à la fois chiffrée, comme vous dites, financière, mais à la fois de sécurité qui me paraît importante à défendre.
Jean-Denis, sur les douanes à Agen, au passage.
Oui, très court, par contre, parce qu'autrement on ne va pas pouvoir équilibrer. Je suis désolé.
Oui, mais je voudrais savoir, l'aéroport, un mot. Bon, vous avez entendu le discours. Moi, sur l'aéroport, ma religion est faite. On va le défendre bec et ongle. la question. Et je suis un peu inquiet lorsque j'entends mon collègue dire son devenir, la question va se poser. Non. Il y a aujourd'hui quelque chose qui n'est pas admissible à la fois du Conseil régional et du Conseil général. L'un qui nous dit, on va mettre l'argent sur Mérignac et sur Bayonne. Non. Non. On ne va pas à nouveau concentrer sur ces deux aéroports qui marchent très bien tout seuls. Et deuxièmement, le Conseil général qui dit bon, on n'a plus d'argent, désolé, etc. C'est un combat qui commence, l'aéroport d'Agen. Et moi, je sais, pour avoir été dans des dossiers stratégiques, à quel point il compte. On n'aurait pas eu les nappes s'il n'y avait pas eu l'aéroport d'Agen. On n'aurait pas eu, encore une fois, un certain nombre d'extensions de BMS si on n'avait pas eu l'aéroport d'Agen. Donc, c'est absolument stratégique et c'est un combat qui commence. Et je serai au premier point aux premières lignes de ce combat. Sur la brigade des douanes, moi j'étais donc au contact avec les syndicalistes et ils m'ont convaincu sur un point. Le point qui est de dire, aujourd'hui, il faut qu'on rassemble toutes nos forces le long de la route nationale 10, d'Andaille jusqu'à Bordeaux, parce que c'est là qu'est le trafic, parce que c'est là qu'on optimisera les captures, est une folie. Parce que les gens s'adaptent, les délinquants sont mobiles, etc. Et donc, cette histoire ne tient pas la route. Et donc, il faut aujourd'hui mettre en avant ça pour dire, écoutez, ne serait-ce que sur l'efficacité, vous ne pouvez pas nous sortir un plan où vous reconcentrez tout sur la ligne Andaille-Bordeaux. C'est une folie.
Monsieur Lozana, 2050 pour vous, vous les utilisez ? Et après, on va conclure.
Oui, parce c'est que, voilà, vous les donnez.
Le diagnostic, voilà, je suis très heureux. Nous sommes d'accord sur le diagnostic. Il y a une action forte, ça a été dit, à faire en direction du Conseil régional. Monsieur Dionis du Séjour est conseiller régional depuis plus d'un an. Voilà. Donc, quelle est l'efficacité d'un homme qui est dans l'opposition et qui doit porter donc des dossiers locaux qui ne sont pas entendus ? Parce que si on en est là, c'est bien parce que aussi les financements en direction de l'aéroport, de la part de la région, n'arrivent pas. Et j'ai pas dit que c'était moi qui posais la question de l'aéroport, j'ai dit qu'elle serait posée. Ouais, parce qu'on nous le pose.
C'est gentil.
Mais tu veux voir ce. Voilà. En tout cas, moi je dis que ça reste un atout pour beaucoup de personnes qui montent souvent. Moi j'ai croisé beaucoup de chefs d'entreprise ou autres qui en effet trouvent que c'est un atout cet aéroport, donc il va falloir le défendre le plus possible, à voir si après on arrive à le faire. On ne peut pas tout financer. Moi je ne veux pas faire de démagogie là-dessus. Il y a toujours des choix à faire. Alors si la LGV ne se fait pas, ça ne se posera pas la question. Il faut absolument avoir un aéroport. Et le reste, on verra selon les financements.
On va sans doute, finir sur une question un peu politique.
Tout à fait. Et on mettra encore un peu plus de temps donc à M. Lozana, bien sûr. Et après, on
conclura. C'est Lozana, hein.
Non. Il se trouve que je m'étais étalonné sur terminer le débat à 11h, donc j'ai essayé de faire des...
Oui, mais allez-y, il n'y a pas de souci. On va vous laisser votre temps, ne vous inquiétez pas.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire.
Voilà, donc on va équilibrer tout ça. Si après on est à 30 secondes près, je pense que là, on pourra y arriver. Ça ira. Et donc on va vous laisser la parole, et c'est Stéphane qui va poser donc cette toute dernière question pour ce débat. Et on équilibre donc à zéro après, et comme ça Monsieur Dionis pourra bien sûr répondre à la question que Stéphane va poser.
Dimanche, en France et en Lot-et-Garonne, il y a un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé, tout simplement. Vous, homme politique, parce que vous l'êtes tous les deux déjà, et vous avez l'intention de l'être un peu plus, en tout cas après dimanche soir, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous pensez que le discours que vous tenez, que vous avez tenu pendant une heure ici, est complètement... hors sol, pour reprendre une image agricole. Est-ce que vous avez l'impression de parler vraiment aux gens ou pas du tout ?
Monsieur Lozana, ce taux
d'abstention.
D'abord, il est toujours désolant qu'il y ait un taux d'abstention élevé. Ensuite, il faut faire attention aux analyses là-dessus. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne se déplacent pas ont voté pour X, Y ou n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Ça peut aussi vouloir dire, mais on sait qu'il va y avoir... une majorité à Emmanuel Macron, c'était ce qui était prévu, et on va voir ce qui se passe. En termes de discours, si La République En Marche est devant, c'est bien parce qu'on a voulu renouveler les discours politiciens, et que Moi, je ne suis pas... Vous savez que je continue à travailler. J'ai jamais été un politique professionnel.
6 millions d'électeurs ont voté Macron seulement.
Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est peut-être ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, nous étions dans une France morcelée lors des élections présidentielles. Mais ça veut dire qu'il y a une bienveillance, parce que s'ils avaient voulu voter contre, ils seraient venus voter. Personne ne les empêche, ceux qui ont voté à la présidentielle. Donc voilà, il y en a beaucoup qui nous disent, on va laisser faire. Alors soit il y en a qui adhèrent et qui disent, il faut donner les clés du camion à notre président parce qu'on veut voir ce qui se passe et on essaie de ne pas le bloquer. Et ça peut être une partie de la réponse. Et puis d'autres qui ont un certain désintérêt, parce que classiquement, vous savez qu'il y a une chute, je crois, d'à peu près de 80% dans la participation entre les présidentielles et les législatives. 20%. Oui, 20%. Donc on est 20%. Et donc, c'est préoccupant, mais c'est. Voilà, ça peut être ces deux phénomènes.
Jean-Denis ?
Non, il y a une chute donc de la participation qui est considérable. Hein. En gros, on votait en Lot-et-Garonne sur cette première circonscription à 63-64% et on a voté à 51-52. Donc ça fait moins 12, c'est considérable. Donc le premier message, c'est effectivement de voter. Alors la tendance, elle est lourde, elle est dans tous les pays au recul de la participation. Ça veut dire, moi ça m'interroge en tant que militant politique, hein, ça veut dire que aujourd'hui il y a une distance avec la population. Ma réponse à moi, c'est le contrat. C'est la recontractualisation de la politique. Si vous m'élisez, je ferai ça. Et une fois qu'on est élu, on tient ça. C'est le système d'engagement de la municipalité d'Agen. C'est pour ça que j'ai envoyé un programme avec 22 engagements si j'étais élu député sur ce que je ferai. Tant qu'on n'aura pas ça, les gens entendront notre discours, et ce matin compris, comme un discours de communication et non pas comme un contrat entre eux et nous. Et moi, je suis un adversaire, mais je suis alors vraiment un adversaire absolu de cette politique communication, et je suis dans la recontractualisation. C'est pour ça que j'ai essayé de dire voilà ce que je ferai, y compris avec des propositions innovantes, comme l'université des députés, sur ce mandat de député. Voilà, sur le fond, premier message. Après, par contre, c'est avec un peu d'urgence, voter une Assemblée nationale qui descendrait dimanche prochain en dessous de 50%, le symbole est ravageur. Absolument ravageur sur sa légitimité. Vraiment.
Monsieur Denis, il vous reste une minute. On les garde peut-être pour vous, excusez-moi de vous couper pour la fin, hein, pour le dernier mot. On ne devait pas le faire, mais on va faire le dernier mot. Et on va passer avec monsieur Lozana. Il vous reste 2 minutes pour le dernier mot. Donc comme ça, on va pouvoir équilibrer. Donc 2 minutes.
Moi, j'ai une réponse qui est la mienne, claire, et qui est ma pratique depuis tout le temps. C'est de faire de la proximité. Moi, je suis quelqu'un de proximité, je continue à travailler pour aller au contact des gens. Je crois qu'il faut expliquer et recevoir. Et c'est une méthode un petit peu nouvelle. Vous savez que Emmanuel Macron a fait ce qu'on appelle la grande marche, c'est-à-dire il y a eu des remontées de terrain très très importantes. C'est comme ça que s'est élaboré ce projet. C'est comme ça que nous devons continuer à dialoguer avec les Français et rendre compte. Et moi, je me suis engagé, vous l'avez vu, dans mes écrits, à rendre compte à la population, d'aller au-devant de la population. C'est pas toujours facile, mais je crois qu'il faut être ce lien, cette courroie de transmission avec la population. Moi, je revendique la proximité. C'est mon ADN depuis toujours, et c'est ce que je continuerai de faire en tant que député sur Agen-Nérac, parce qu'il y a Agen, il y a Nérac, il y a tout l'arrière-pays, et donc j'irai y compris donc dans l'Albret régulièrement.
Il vous reste une minute, si vous voulez les prendre, allez-y. Hein. Mmh. Après, je pourrais pas vous les redonner.
Non, moi, je vais redire ce que j'ai dit. Hein. Je pense vraiment que pour être entendu, il faut un député qui fasse partie de la majorité, qui puisse remonter ses préoccupations de terrain. Moi, je suis avec Nathalie Tourné, ma suppléante, très proche aussi des agriculteurs. Et elle m'a complété toute la vision que j'avais sur l'agriculture, qui est une chance future pour le département, dont on n'a pas assez parlé, parce qu'on croit toujours que l'agriculture c'est passéiste, ce n'est pas vrai. Et même ici, Agropole dépend de l'agriculture, donc on a un lien fort à faire, bien évidemment avec les métropoles, avec les villes, mais avec le monde rural, et cette proximité-là peut vraiment nous amener des éléments très très positifs.
Merci Monsieur Lozana, il vous reste donc 10 secondes, on les met de côté, c'est bon, c'est pas de problème, on a réussi à équilibrer. On a un petit peu débordé, une minute pour Monsieur Dionis, tout pile poil, je vous arrêterai pour, et vous ne m'en voudrez pas pour qu'on soit bien au clair avec le CSA, il vous reste une minute pour venant le tout dernier mot, si vous voulez en profiter, allez-y.
Non, mais une minute ce sera court, mais vous me ferez un rabais. Si vous voulez, il faut faire attention à dimanche prochain. On nous annonce une victoire écrasante de La République En Marche avec une fourchette de 415 à 450 députés. Si c'est ça, alors on a quelque chose qui n'est pas sain au niveau démocratique qui se prépare. À savoir qu'un mouvement qui fait 32% des voix, qui concentrera donc 80% des députés. Et donc là, sur cette affaire-là, je dis à un certain nombre de gens, ils ont voulu assurer une majorité à Macron, c'est fait, ils ont voulu donner sa chance au président, c'est fait. Maintenant, il faut qu'ils retrouvent un peu le réflexe français, j'allais dire un peu le réflexe gaulois. On vote libre, on vote selon nos convictions, et on a une Assemblée nationale qui ressemble à la France, et qui n'est pas complètement déformée, parce qu'on va vers ça. Et donc je les mets avec un peu de gravité devant l'enjeu. Donc je leur dis, votez. Il faut que la participation, je termine.
Mais 10 secondes, pas plus.
Votez libre,
s'il vous plaît.
Vous avez dit qu'on était en.
Oui, non, mais après,
votez libre. Et dernière chose.
Vous lui donnerez du temps.
Votez l'homme après et votez le tandem, votez l'équipe. Nous, deux messages. Et j'ai terminé. Merci. Premièrement, on vote pour encore une fois une révolte de la France périphérique. Et ça, c'est nouveau et c'est fort. Il faut le dire avec des mots durs. Et deuxièmement, il faut voter quelqu'un qui portera les dossiers stratégiques de manière forte. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Ça, je sais le faire. Et avec Dominique Bottéon, en tandem, je veux le porter.
Monsieur Denis, merci. Monsieur Lozana,
oui.
Je
vais donc conclure et je serai très bref.
Merci, hein.
Je veux dire que c'est le discours qui vient d'être tenu était complètement contraire à ce qu'il avait été tenu par M. Dionis du Séjour en 2007. Il était déjà candidat. Donc, il tenait exactement le discours inverse en disant qu'il faut donner une majorité forte à la droite ou autre. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est parce que ça fait partie des pratiques que les Français ne veulent plus. Il y a encore des vieux politiques, de la vieille politique qui n'ont pas compris que les Français n'admettaient plus ces changements au gré des vents, j'allais dire. Deux discours différents à quelques années d'intervalle, ce n'est plus possible. Donc je crois que les Français ont mis ça en avant dimanche en votant pour le président Macron, pour ses représentants, pardon, et je suis sûr qu'ils renforceront au contraire ce premier mouvement.
Merci, voilà. Monsieur Lozana. Je pense que vous avez une petite trentaine de secondes de retard. On les rattrapera si ça vous va. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Merci, bien sûr, à Bastien Souperbier, Journal Sud-Ouest, et puis également Stéphane Bersauter, journaliste groupe La Dépêche. Sans que nos candidats interviennent, vous voulez faire un petit peu le final, le petit résumé, et puis après on se quitte, on y va.
Non, je dirais simplement aller voter dimanche.
Hein, voilà, excellent.
Voilà, merci beaucoup
merci
en tout cas, messieurs les candidats, d'être venus dans les studios de Radio Bulle.
Merci à vous.
On a démarré un petit peu, mais c'est important, vous donner la parole ici en Lot-et-Garonne. Hein, on l'a fait, vous en veuillez pas trop si on n'a pas trop bien géré au début le temps, mais c'est comme ça. Demain, sur CFM, c'est donc la circo numéro 2 qui sera en direct.
C'est
Marmande. Marmande. Et puis le lendemain,
je fais toujours des nœuds.
Voilà. Jeudi, ce sera donc la circo donc de Villeneuve-sur-Lot qui sera retransmis bien sûr sur Radio Bulle. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Et
merci à Radio Bulle et aux journalistes.
Merci beaucoup,
à vous, c'est un bon débat contradictoire.
Voilà, on est assez content. On en fera
d'autres. Fort du contradictoire.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
Élections législatives 2017, second tour. Mobilisation de l'ensemble des radios associatives de Lot-et-Garonne, Radio Bulle, Radio 4, Espoir FM et CFM Radio. En simultané, 3 circonscriptions, 3 débats en direct de 10h à 11h. Mardi 13 juin, première circonscription en direct des studios de Radio Bulle à Agen. Mercredi 14 juin, deuxième circonscription en direct des studios de CFM Radio. Jeudi 15 juin, troisième circonscription en direct des studios de Radio 4. Élections législatives 2017, second tour, un événement à vivre sur Radio Bulle, Espoir FM, Radio 4 et CFM Radio.